Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Pour avancer tous ensemble sur le chemin de la transition écologique et sociale, il ne faut rien négliger. Ainsi, le tourisme fait l'objet d'une attention particulière en Biovallée, dans le but évident de réduire ses impacts négatifs sur la nature notamment. Profiter pleinement de ses vacances tout en ayant une attention particulière à l'environnement qui nous entoure, connaître sa biodiversité pour avoir envie de la protéger, comprendre le cycle de l'eau, manger de la nourriture saine produite localement par exemple, puis rentrer chez soi avec des valeurs qui favorisent l'engagement personnel vers cette transition. C'est ce que l'association Biovallée appelle le tourisme durable et apprenant. Apprendre en voyageant ou voyager pour apprendre? Quelle est ton expérience?
J'ai pas énormément voyagé, je suis allé en Tunisie et en Hongrie. La Tunisie, ça m'a appris qu'il fallait se battre parce que j'y étais pendant la Révolution. Et la Hongrie, ça m'a appris que les gens peuvent vivre ensemble sans se mettre sur la gueule, pas comme en France, quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
Et tu y allais, toi, pour apprendre quelque chose ou...
Non, moi, j'y allais surtout pour me promener. Et puis en Tunisie, j'ai de la famille, donc je suis allé les voir. Et en Hongrie, j'ai un pote qui travaille là-bas, donc je suis allé le voir aussi. Mais j'avais pas spécialement de but, non, à part découvrir.
J'ai passé 15 ans en Allemagne. Du coup, j'ai voyagé pour partir loin. Et j'ai voyagé pour rentrer chez moi en France aussi. Au point que le voyage, on sait plus trop où il commence, on sait plus trop où il s'arrête. Du coup, quand tu pars loin de tout ce que tu connais, de tous les gens qui t'entourent pour se retrouver un peu tout seul, l'apprentissage, t'es obligé, quoi. T'as pas le choix. D'autant plus d'apprendre encore une autre culture dessus.
Tu cherchais quoi ?
J'ai cherché les Allemands. J'avais un coup de foot pour les Allemands quand j'étais ado. Mes cousins sont franco-allemands, du coup j'ai été baignée déjà assez tôt. Et je cherchais vraiment à me réécrire, à me transformer. Et ça a bien marché.
J'ai plutôt voyagé pour visiter à l'origine. Par exemple, la Tunisie, c'était aussi pour aller voir d'où venait la famille de ma mère. Ils étaient pieds noirs. Du coup, c'était un peu... un retour aux sources, quoi. Puis le Sénégal, lui, c'était vacances. Voilà, je visite un petit peu, je vois à quoi ça ressemble. Il y a un truc que je voulais particulièrement aller voir, c'est le parc du Niokolokoba. Je voulais aller encore plus loin, mais bon, j'ai pas pu, faute de finances. Donc je me suis rabattu sur la Casamance. Je recommande aussi. Te dire que j'en ai retiré grand-chose. Non, pas forcément. C'était surtout des bons moments, quoi.
C'est la rencontre avec l'autre. L'autre qui n'a pas la même culture, qui n'a pas le même vécu. Donc forcément, on apprend des choses. Après, on peut voyager pour apprendre quelque chose sur le terrain. Et on peut...
Et qu'est-ce que t'as appris, du coup ?
Je peux pas le dire.
Pourquoi ?
Dernièrement, on va dire que j'ai appris comment ça fonctionnait dans le sud tunisien, dans les fours à poterie et des trucs comme ça. Donc ça, oui, comment ils tournent à la main. Voilà. Sinon, après, j'étais plus jeune, j'ai appris comment font la fête, par exemple, les Croates. Et c'est autre chose.
Voyager, ça ouvre. T'es pas obligé de le voir comme du tourisme. Tu peux le voir aussi comme des temps de vie particuliers. Là, on appelle ça un voyage et pas du tourisme, du coup. La temporalité, c'est vachement important. Le problème du tourisme, c'est que tu as des vacances, c'est très court. Tu vois, tu prends 15 jours de vacances, c'est court. Et ça s'appelle plus du voyage, mais du dépaysement. Donc je me dépayse, je prends un billet d'avion, je vais à l'autre bout du monde. Waouh, c'est dépaysant et je reviens. Voyager, c'est pas que l'endroit où tu vas, c'est aussi comment tu y vas. Le voyage étant autant la destination que le moyen d'y aller.
Et le retour ?
Et le retour, évidemment. Ça, c'est plus compliqué. Il y a des fois où il n'y a pas de retour, d'ailleurs. Des gens qui partent et qui ne reviennent pas.
Apprendre en voyageant, c'est, il me semble, d'abord apprendre à s'adapter à chaque fois à ce qui vient qui est nouveau et qu'on découvre. Que ce soit avec les gens, avec une langue, avec un pays qu'on ne connaît pas. C'est peut-être ça, s'adapter. C'est-à-dire qu'on est situation tout de même, pourquoi pas un petit peu vulnérable, un peu fragile, parce que quand on voyage, c'est une aventure, le voyage. Enfin, peut-être qu'il faudrait qu'on identifie d'abord ce que ça veut dire, voyager. Voyager, c'est
On n'est pas obligé de partir très loin.
Oui, on n'est pas obligé de partir très loin. Mais en tous les cas, on va là où on a peut-être mis de côté un peu sa zone de confort, qui est celle du quotidien, qui est celle de l'endroit qu'on connaît bien. On part. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Donc, encore une fois, il s'agit de poursuivre au mieux ce voyage et de s'enrichir de cette expérience. Le voyage, c'est une histoire aussi de rencontres. Et là, auprès de ces personnes qu'on peut, oui, croiser, auprès de qui on peut prendre du temps aussi pour explorer un peu plus la réalité de ce que les gens vivent dans un endroit du monde, c'est se laisser surprendre. Et guidé aussi tout de même par des émotions, c'est ce qui vient généralement donner l'envie de par exemple à vélo, c'est ce que je pratique, d'aller toujours un peu plus loin pour tenter de pas en louper une miette, comme on dit.
Depuis que la rivière a été rendue baignable, parce que ça c'est quand même important, c'est une énorme attraction de la Biovallée, on peut dire que ça représente 30% de l'économie du territoire.
Claude Boudel, vice-présidente de l'association Biovallée, référente tourisme.
Avant, on ne pouvait pas se baigner dans la Drôme. Moi, j'étais petite quand la Drôme, c'était une rivière poubelle. Donc, on nous interdisait de nous baigner. Et il est évident qu'on a énormément de clientèle hollandaise. Et ce sont des gens qui sont vraiment attirés par la baignade. Donc, automatiquement, à partir du moment où c'est devenu ce torrent sauvage, parce que c'est un des derniers torrents sauvages d'Europe, baignable. Bon, on a eu énormément de clientèle hollandaise et belge, donc il y a eu une grosse fréquentation. Et c'est là où il a fallu prendre conscience justement de la sur-fréquentation.
Et quels sont les enjeux ?
C'est tout simplement faire du tourisme différemment pour être respectueux de l'environnement, respectueux des gens qui sont aussi sur le territoire, parce que c'est pas le tout d'arriver pour passer des vacances et puis de faire n'importe quoi. De salir la rivière, d'aller piétiner les fleurs dans les prairies, tout ça, il faut être respectueux. Donc c'est ça, nous, notre enjeu, c'est d'apprendre aux personnes à faire un tourisme différent, respectueux. Le tourisme, il se réinvente depuis quand même quelques temps parce qu'il y a pas mal d'acteurs, des gens qui sont impliqués dans le tourisme pour en faire un tourisme, donc ce qu'on dit souhaitable. Donc ils ont tous travaillé avec beaucoup d'intelligence pour arriver à créer cette atmosphère qu'on a la chance d'avoir ici. Beaucoup d'hébergements de toutes sortes. On a beaucoup de campings dans la vallée qui sont intéressants. Et on a des chambres d'hôtes, on a des gîtes, des grosses structures qui accueillent. À côté de ça, bon, y a les restaurateurs. À côté de ça, il y a toutes les épiceries qui fournissent aux touristes qui sont dans les campings. Donc il y a toutes ces épiceries. Et puis il y a des gens qui sont des agences de voyage. Vous avez aussi des personnes qui travaillent justement autour de au sol et biodiversité, comme Lysandra, hein, par exemple. C'est pour moi des gens qui travaillent dans ce domaine-là et qui sont très respectueux de la nature. Il y a ça.
Est-ce que vous pourriez me donner une définition du tourisme durable et apprenant en Biovallée ?
Pour l'association, le tourisme durable et apprenant, ça va vraiment recouvrir un ensemble d'expériences pour un public touristique, du coup. Expériences qui permettent d'aborder des enjeux de transition qui vont être spécifiques au territoire.
Andréa Mayotte, chargée de mission Biovallée sur le tourisme durable et apprenant.
Donc on va aborder des problématiques agricoles, des problématiques liées à la gestion de la ressource en eau, des enjeux liés à la préservation du vivant. Et ces expériences, elles peuvent être multiples. Donc ça peut être passé par une sensibilisation, aller sur une expérience qui va être plus immersive sur le territoire et faire vivre aussi des formations qui peuvent être, elles aussi, plus ancrées sur le territoire. Donc voilà en quelque sorte ce que peut être le tourisme durable apprenant. Et on a la conviction aussi que ce forme de tourisme, en fait, peut permettre des prises de conscience peut permettre aussi une mobilisation des personnes qui reçoivent et qui bénéficient de ces expériences-là et qu'elles se mobilisent pour plus de changements dans leurs pratiques.
Et sous quelle forme donc
Eh bien là, c'est intéressant de parler des acteurs qui sont sur le territoire et font vivre différentes formes donc de tourisme durable apprenant. On peut parler des éco-hébergeurs, effectivement. Donc les éco-hébergeurs, c'est une communauté de pairs, des hébergeurs professionnels sur le territoire, des gîtes, des chambres d'hôtes, des campings. Et ils ont décidé de porter des valeurs écologiques et sociales, de les défendre, de se retrouver. Et donc quelque part, c'est une communauté qui est apprenante et qui vise à faire bénéficier, faire circuler les savoirs, faire circuler les pratiques pour que la communauté s'enrichisse de ça et puisse s'améliorer sur le chemin de la transition. Donc ça peut être un exemple. Et les éco-hébergeurs, c'est un cas qui est assez intéressant parce que finalement, la transmission elle est vraiment au cœur de leur pratique. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on se transmet entre nous, des pratiques, des savoirs, comment est-ce qu'on sensibilise les visiteurs. On apporte des éléments vraiment pour les rendre sensibles en fait, au territoire et ses enjeux. Comment est-ce qu'on transmet notre expérience aussi à d'autres hébergeurs du territoire qui pourraient vouloir cheminer sur ce trajet-là. Voilà. Donc là, c'est les éco-hébergeurs communauté apprenante, mais après, il y a d'autres formes effectivement de tourisme durable et apprenant.
Je peux peut-être compléter sur l'autre gradient du tourisme durable et apprenant vis-à-vis des acteurs qui, eux, sont des acteurs plutôt de la transmission des savoirs. Donc ça peut être sur des formats ateliers, stages, formations, mais qui décident de s'ancrer beaucoup plus au territoire. Donc c'est un peu cette dimension touristique pour transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont expérimenté.
Julie Delclos, chargée de mission Biovallée sur le pôle des savoirs.
Donc on a des acteurs qui font ça sur le territoire Biovallée, type l'Université Populaire par exemple, donc celle du Val-de-Drôme, qui peut proposer des conférences en salle, mais qui peut aussi proposer des temps hors les murs pour être vraiment au contact, à l'extérieur, et pour apprendre du coup différemment. Des organismes de formation qui proposent aussi de former des publics professionnels en les mettant au contact du territoire. Donc j'entends par là, il y a des temps d'échange le matin quand il fait froid au bord de la rivière, et ça permet aussi de profiter de tout cet environnement naturel du territoire pour mieux sentir, ressentir et donc apprendre aussi et retenir ce qui est dit. On a d'autres acteurs aussi sur le territoire qui poussent le gradient de l'expérience, de l'émotion, comme l'école pratique de la nature et des savoirs qui peut faire en sorte de vraiment s'immerger dans une expérience pour en tirer des enseignements. Donc un format multiple pour aborder ces volets-là.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, Julie citait effectivement des acteurs de transmission qui proposent quelque chose de plus ancré au territoire, une forme d'expérience, et dans leur façon de transmettre au public accueilli. Mais il y a aussi des acteurs du tourisme qui intègrent la transmission vraiment au cœur de leur pratique. Et donc, on voit vraiment tout le métissage, en fait, entre tourisme, apprentissage, transmission. Donc, ça va vraiment devenir central dans leur pratique. C'est par exemple le cas du centre agroécologique des Amanins, qui vont proposer des séjours, des stages à la ferme, qui vont se faire vraiment en immersion sur leur site, et vont permettre de découvrir la vie paysanne, leurs pratiques agricoles. Ça peut être l'exemple aussi du monastère de Sainte-Croix, qui va proposer des visites botaniques de son jardin en plantes médicinales, ou aussi des temps d'événementiel, comme à l'occasion du Festival, qui est un festival qui est hébergé au sein du monastère et qui est vraiment en vocation à sensibiliser, à transmettre au grand public sur les questions d'enjeux au vivant, en accueillant des scientifiques, en accueillant des acteurs locaux qui travaillent sur ces problématiques-là, et puis des artistes aussi locaux. Voilà. Donc il y a vraiment ces acteurs du tourisme qui s'emparent de la question de la transmission aussi.
Et en quoi est-ce que c'est important aussi de proposer un autre style d'apprentissage sur tous ces sujets de transition ?
Alors ça peut être important d'avoir différents types de formats pour transmettre sur la transition, parce que déjà la transition écologique et sociale, c'est un sujet qui est complexe, qui touche à beaucoup de thématiques, à beaucoup de sujets, à beaucoup de dimensions techniques, humaines, sociales, etc. Et en fait, tout le monde n'apprend pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont apprécier rencontrer quelqu'un de charismatique, qui va transmettre, et c'est là que la personne va réellement comprendre des choses. Mais il y en a d'autres qui vont apprécier d'être tout seul, enfermé, en train de lire des bouquins. D'autres qui vont apprécier le faire en groupe, parce que la communauté permet d'aller plus loin dans l'apprentissage. Il y a des gens qui vont adorer être en classe, des gens qui vont adorer être dans la nature. Donc en fait, le tourisme durable apprenant, ça permet de pouvoir s'adresser à tout le monde dans sa diversité et sa capacité à apprendre selon différents formats. Et en ça, c'est intéressant.
cette conviction que des personnes sensibilisées, des personnes qui vont développer une autre attache à ce qu'elles voient, une autre attache au territoire qu'elles vont traverser, une envie de prendre soin, de préserver, voire de contribuer en fait pour que ce territoire et ses différentes composantes, les acteurs puissent se maintenir. On voit vraiment le côté possibilité d'implication en fait qui peut être un peu plus importante. Les touristes qui peuvent vouloir revenir et participer à des chantiers pour apporter leur pierre en fait au territoire. Ça peut être un début de réponse par rapport à ça.
Pour moi, ce qui est aussi important, c'est le fait que ces touristes qui viennent et à qui on transmet nos valeurs, ils vont sur d'autres territoires. Et sur les autres territoires, ils vont parler, ils vont raconter ce qu'il a vu.
Claude Boudel.
Je suis très sensible à ce que l'on appelle l'essaimage. Je veux absolument pas qu'on reste dans notre bocal. On est un territoire pilote, un territoire école. Donc si on veut continuer cette ligne-là, il faut communiquer vraiment nos valeurs pour qu'elles soient retransmise sur d'autres territoires. On ne peut pas rester simplement chez nous à expérimenter. Voilà. Il faut vraiment qu'on sorte de notre bocal. C'est ma formule, je l'aime bien.
Est-ce que tu le ressens que le tourisme durable et apprenant en Biovallée permet justement de sortir
C'est évident. Moi, je parle des éco-hébergeurs, je suis éco-hébergeur. Mais quand on reçoit des gens où il y a des enfants, et ça c'est très important les enfants, et qu'on explique comment il faut au repas, comment il faut acheter en circuit court, comment il faut... On n'est pas obligé de manger des grandes quantités. Il faut manger pour se nourrir. On transmet ça. Pour l'eau, pareil. Moi, les économies d'eau, je leur explique tout bêtement qu'il faut mettre une bouteille d'un litre et demi dans la chasse d'eau. Chaque fois qu'ils tirent, ils économisent un litre et demi d'eau. Mais je sais que quand ils repartent, ils le font et ils l'expliquent autour d'eux. Quand ils vont en forêt, je leur dis, écoutez, si vous voyez du thym et que vous avez envie d'en rapporter chez vous, s'il vous plaît, ne l'arrachez pas, coupez-le. Vous voyez, tout des tas de petites choses qui font que si vous les faites avec, si vous les transmettez avec passion, ça c'est très important, automatiquement, les gens, ils y sont sensibles et ils vont reproduire tout ça ailleurs. Moi, j'y crois, je suis vraiment, je crois vraiment à ça.
Et sur ce volet-là, en dehors du public touristique, de la même manière, le public qui vient pour se former sur le territoire, en fait, il va pouvoir voir que c'est possible aussi. Donc ça nourrit un peu la flamme, comme Claude l'évoquait, de pouvoir essaimer ailleurs, y compris quand on est un acteur qui a des moyens d'agir dans son propre territoire. Donc il peut venir ici, découvrir que sur un territoire, ça se passe concrètement, il y a des choses qui avancent, il y a aussi des obstacles, mais ils sont peut-être surmontés pour certains. Si je prends un exemple d'un acteur local de la formation, comme le Territory Lab, son public essaime de partout en France, du nord de la France. Nous, à l'association, on a reçu des gens de Belgique. Enfin, ça permet d'aller très loin sur les territoires et ça permet de donner des clés d'action, parce que les gens se rendent compte que c'est possible ici, donc en fait c'est possible chez eux aussi.
Est-ce que l'une de vous aurait un exemple concret de manière de transmettre ?
Complètement, et c'est un exemple qui est intéressant parce que ça montre qu'un acteur de la transmission peut aller à vouloir diversifier son activité pour toucher des publics touristique aussi. On a par exemple, Claude évoquait Lysandra et c'est un acteur qui fonctionne exactement dans ce sens-là, acteur naturaliste, éducatif et qui propose des stages de découverte de la nature à des professionnels comme à des particuliers. Mais on a aussi un acteur comme Drôme d'Abeille qui propose des ateliers de découverte du monde de l'apiculture, du monde des abeilles et qui propose ces ateliers de façon générale à des publics scolaires, professionnels, mais aussi à des publics séjournant sur le territoire de la Biovallée. Et c'est un acteur qui se lance aussi dans un projet de développer une guinguette dans laquelle il y aurait des activités pédagogiques et festives autour du monde des abeilles, avec dégustation de miel et autres choses très très sympathiques. Projet qui ouvrira prochainement, prochain mois, année 2025, sur l'écocide d'Or.
De Montmorillon. J'habite depuis 10 ans dans la Drôme et j'ai un gîte à Chabriant qui s'appelle Lavomane, le nom de la ferme de Lavomane, qui est une très vieille ferme, qui est face aux Trois Becs et à Roche-Colombe, donc une magnifique vue. Et donc j'accueille des personnes en gîte, surtout pour la semaine. 4 personnes, c'est un petit gîte. Le gîte, finalement, il est installé un petit peu à la, comme notre maison est installée, puisque c'est une vieille maison qu'on a restaurée avec mon mari. Et on a installé tous les systèmes qui nous semblaient intéressants pour notre maison, et on a fait la même chose pour le gîte. Donc récupération d'eau, composteur, panneaux photovoltaïques, chaudière à bois, enfin tout ce qui est pratique qu'on voulait essayer d'améliorer. Et on essaye d'en parler en témoignant aux gens qui arrivent, sans non plus leur dire faut faire ci, faut faire ça, mais plus en leur donnant envie d'avoir des pratiques et des, par ce qu'ils voient finalement, de leur donner envie d'utiliser ces pratiques s'ils ne les faisaient pas encore, ou bien de les continuer s'ils les faisaient déjà. Et puis on ne fait pas tout bien en fait. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'on est en progression. Et on a un public qui est finalement assez favorisant, parce que c'est déjà des gens qui veulent se promener autour. On n'a pas de piscine, c'est pas très très confortable, c'est pas un gîte haut de gamme. Donc finalement, on a des gens assez simples qui sont souvent assez désireux de connaître les alentours. Et on insiste beaucoup sur le côté naturaliste. On leur prête on met beaucoup de bouquins naturalistes à disposition. On met des jumelles, on leur prête des vélos, on fait quelquefois des sorties avec eux. Quand on voit un vautour qui passe, on va vite leur montrer si on le voit. Enfin, on essaye d'être au plus proche pour montrer des petits trucs qu'ils n'auraient pas forcément vu, quoi. Moi, je crois beaucoup au phénomène de tache d'huile, c'est-à-dire qu'une personne qui est un petit peu formée et qui est convaincue, elle va convaincre sa voisine. Et c'est sa voisine qui est convaincue elle-même, qui va convaincre les autres. Et en faisant cette grosse tache d'huile qui grossit, on va arriver à ce qu'on appelle la masse critique qui peut faire changer la pratique. Donc pour le moment, on n'y est pas, mais je pense qu'on est en grosse progression. Et puis comme on a quand même énormément de problèmes environnementaux autour de nous, le fait de venir dans un endroit tranquille où on peut se reposer, on peut lâcher prise, on peut aller plus lentement, je pense que l'esprit, il est beaucoup plus libre pour entendre des nouvelles choses, lire tous les bouquins qu'on met à disposition. Donc je pense que l'esprit, il est plus reposé. Et c'est beaucoup plus facile pendant les vacances, forcément, de réfléchir à ce qu'on va faire après quand on rentre chez soi. On ne protège que ce qu'on connaît bien et on aime que ce qu'on connaît bien. Si on ne va jamais dans la nature, pourquoi est-ce qu'on protégerait la nature, en fait ? Tout ce qui peut amener de la nature là où sont les gens, pour moi, c'est positif. Et du coup, ces connaissances, alors ce n'est pas forcément des connaissances des noms ou des trucs très théoriques, hein. C'est vraiment une connaissance par les sens, par la vue, par les odeurs, par la beauté des animaux, la beauté des plantes, les bruits des oiseaux. Tout ça, si on arrive à l'intégrer de plus en plus, je pense que les gens seront plus connaisseurs et donc plus amoureux de la nature et donc plus protecteurs. C'est aussi ça, apprenant. Des touristes qui sont plus connaisseurs, dans tous les sens du terme, avec toutes les façons d'entrer dans la nature, quoi. Mais on aimerait bien avoir des gens qui connaissent moins la nature, qui sont moins sensibilisés. Et du coup, la question, c'est comment on les fait venir. Et du coup, là, c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir en groupe, avec les offices de tourisme, avec les instances touristiques plus peut-être plus connaisseuses, ou dans d'autres régions, ou qui travaillent avec des villes, avec un public différent. Et ça, c'est quand même une grande question qu'on n'a pas encore résolue, en fait. Le petit message que je ferai passer, c'est ce que dit Vincent Munier, qui est photographe animalier. La nature ne mourra pas de manque de merveilles, mais de manque d'émerveillement. C'est ça que je recherche, c'est l'émerveillement.
Alors moi, c'est Félix Tullier. Ma structure, c'est la Ferme des Montagnes Bleues à Bellegarde-en-Diois. C'est un lieu sur lequel je suis depuis 3 ans et qui, pour l'instant, du coup, depuis cet été, il y a une chambre d'hôte, jusqu'à 4 personnes. Et je suis en train, petit à petit, de mettre en place une micro-ferme en permaculture. Du coup, j'ai 1 hectare de terrain et le fait d'accueillir des gens chez moi, ça leur permet de découvrir un peu ça, poser des questions, forcément en interaction avec des choses qui peuvent les interpeller. Par exemple, dans la chambre d'hôte, il y a des toilettes sèches. Il y a une petite affiche qui explique ce que c'est et du coup tout le rôle que ça a dans tout l'écosystème de la ferme finalement et les avantages que ça a même au niveau plus global. Puis après, ça peut être sujet à conversation pour en apprendre plus, voilà, pour les personnes qui viennent chez nous. Moi, si je me suis lancé dans le tourisme, c'est avec une vision globale de mon projet où il n'y avait pas que le tourisme, quoi. Et je trouve que c'est important de faire du tourisme pour que ça apporte quelque chose de positif, en fait, que ce ne soit pas juste de la consommation, quoi. Moi, ce que j'aimerais que les gens voient en ressortant de chez moi, c'est de se dire, en fait, ils vivent de manière assez simple, ces gens-là. C'est pas si compliqué, quoi. Faut mettre les choses en place petit à petit, c'est sûr, faut pas tout faire d'un coup si on fait rien à la base, parce que sinon ça peut paraître toute une montagne, mais après c'est très vite fluide, hein, en fait. Quand on n'a jamais fait de compost, on peut s'en faire, se dire oh là là, c'est compliqué. Et puis une fois qu'on a commencé, bah, c'est simple en fait. Et j'espère qu'un jour, tous les acteurs touristiques feront du tourisme durable et apprenant, voilà, et que ça sera la norme.
Je m'appelle Armelle Michon, je suis installée dans la ferme des Sources de Mirmande, où j'ai un gîte aussi pour 11 personnes au sein de la ferme. Je suis agricultrice en bio, maraîchage, arboriculture, j'ai aussi des plantes aromatiques. Je cultive avec des chevaux, donc en traction animale. J'ai aussi des ânes, des chats, des poules, des cochons d'Inde, des chiens, tout un petit monde. Donc c'est une micro-ferme en fait, parce que je suis toute seule sur la ferme, donc je n'ai pas une production très très énorme, surtout que j'ai aussi le gîte. Mais j'essaye de faire vraiment le plus naturel possible, sans traitement, avec des légumes anciens. Je privilégie le goût à la productivité. Ce qui n'est pas très rentable, mais ce qui est bien plus agréable. Et je transforme pas mal de produits pour pouvoir les conserver. La ferme, quand je me suis installée, était déjà dans un environnement quand même assez naturel, protégé. Je suis en bordure d'une grande forêt, un ruisseau en bas du champ. C'est assez pittoresque et idyllique. Et j'essaye donc dans mon activité au maximum de préserver la biodiversité, d'avoir le moins d'intrants possible. Je produis mon fumier avec le fumier de mes chevaux, etc. Et donc j'essaye de faire profiter à mes clients de toute cette activité, de ces recherches, parce que je suis depuis 10 ans en recherche d'amélioration et de résilience en fait, surtout sur le changement climatique qui impacte quand même beaucoup l'agriculture. Donc changement de variété de légumes, changement d'irrigation, changement d'entretien du sol, de travail du sol, etc. Je fais de l'agroforesterie aussi, j'accorde de plus en plus de place à l'arbre pour apporter de la fraîcheur, de l'ombre, des nutriments, etc. Tout plein d'expérimentations que j'essaye de montrer, d'expliquer et de faire progresser de toute façon toujours en échangeant avec les clients.
Est-ce que c'était un objectif de base de pouvoir sensibiliser autour de ton activité d'agricultrice le fait d'ouvrir ce gîte à un public ?
Au départ, peut-être pas, parce que d'abord, j'imaginais pas la vitesse des modifications du climat avec le changement climatique. Mais bon, dès l'installation, je voulais avoir un gîte pour pouvoir quand même ne pas être enfermée sur moi et avoir de la visite et partager avec des gens. Après, il faut arriver à ce que les gens ouvrent les yeux et accueillent effectivement les différences, parce qu'en France, il y a énormément de différences entre les régions au niveau de l'impact du changement climatique. Il faut pouvoir profiter du tourisme pour montrer ce qui existe, ce qui se passe, ce qui se fait et ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait pour s'adapter.
Moi c'est Jody, je travaille avec ma femme qui s'appelle Oriane. On tient le camping de la Clairette à Espenel depuis 15 ans. C'était un camping de famille qui appartenait avant à mes parents et avant à mes grands-parents, qui a fêté l'année dernière ses 70 ans, un vieux camping. Du coup, nous, quand on a repris le camping, on a rapidement apporté la dimension durable, parce qu'on avait beaucoup de travaux de rénovation à faire sur les bâtiments et sur les installations en général. Et on a voulu absolument travailler sur les énergies, donc la sobriété, l'électricité, l'eau, ça c'est des choses qu'on a travaillées. Est venue avec ça une dimension sur la biodiversité. Et en fait, on s'aperçoit que même si on était le meilleur hébergement du monde, si on est tout seul dans notre coin, c'est nul. S'ils peuvent voir que Avoir un compost, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Comprendre que le vivant, c'est important. Même si on veut de l'herbe bien tendue dans un camping, peut-être on peut laisser un coin avec de l'herbe haute pour pouvoir justement laisser un peu de vie, voir des petits oiseaux et tout ça. En fait, on a besoin que notre public y comprenne quelles sont nos valeurs et pourquoi on le fait, et qu'il le fasse aussi. Quand on est en vacances, souvent on a le temps. On a le temps d'être en famille, de regarder ce qui se fait, de faire des petits gestes ensemble. Du coup, depuis 2022, on est Refuge LPO, partenariat avec l'association de la Ligue pour la protection des oiseaux. On a un intervenant qui vient deux fois dans la saison faire une animation d'une demi-journée. On a fait des animations sur la prairie, les insectes de la prairie. On a fait une animation sur la rivière, tous les animaux qui vivent dans la rivière. Pourquoi il ne faut pas tourner les pierres et faire des barrages, par exemple. On a fait aussi sur les chauves-souris, les animaux nocturnes, donc c'est toujours super intéressant. On reçoit à peu près 2000 personnes dans l'année, deux demi-journées, c'est assez peu, quoi. Donc c'est vraiment une dimension qu'on a envie de travailler, qu'on a envie d'améliorer pour augmenter ce partage et cette connaissance, et que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Parce que c'est une clientèle qui n'est pas forcément très tournée vers les enjeux environnementaux, et qui va peut-être en profiter de ce temps de vacances pour le découvrir et peut-être changer ses pratiques. C'est ça qui nous intéresse. Si on avait que des gens qui savent déjà faire un compost, qui viennent en vélo, et on n'aurait rien à apporter à ce monde finalement. Et c'est ça qui nous motive là-dedans. On a une partie du public qui est citadin, mais vraiment pas que. On a aussi des gens qui sont pas citadins et qui pourtant ne savent pas ce que c'est le vivant qui est autour d'eux, quoi. L'image du camping standard, c'est plutôt le toboggan, la voiturette électrique, les milliers de mobilhomes les uns contre les autres. Il y a plein de campings en ruralité qui sont bien différents de cette image-là et qui ont bien d'autres choses à apporter. Que ce soit sur la partie environnementale, mais pas que, de chaleur humaine, de contact, où on a des structures qui sont à taille humaine et où on peut rencontrer les dirigeants, discuter avec eux et rester assez proche, quoi. Moi, je suis référent développement durable de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air, donc il faudrait que les campings, ils se bougent. Je sais qu'ils se bougent un peu quand même, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, mais c'est sûr que sur certains sites, il y a un gros travail à faire encore. On n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde sur du sable blanc et des cocotiers pour se changer les idées. Des fois, on peut partir juste à côté de chez soi. Nous, on habite la vallée de la Drôme, et pourtant, on part en vacances des fois dans le Vercors. C'est pas loin, et pourtant, ça change vraiment la vie. Donc, c'est pas la peine de partir très loin pour vivre des expériences différentes et vivre des choses différentes. Donc, voilà, j'espère que les gens continueront de partir en vacances, mais pas trop loin.
Je suis Anne-Claire Régnier et je m'occupe du domaine des Ayas qui se trouve à Vonnavey-la-Rochette. Et c'est un gîte grande capacité, donc on peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Donc accueil de groupes privés la plupart du temps et des séminaires d'entreprise la semaine.
Un tourisme durable et apprenant, qu'est-ce que c'est ?
Transmettre cette idée qu'on peut être dans des lieux en préservant l'environnement, en préservant l'eau, les énergies, mais également en consommant local, avec des prestataires et des agriculteurs qui peuvent être amenés à livrer de la nourriture sur le domaine. Et nous, on a créé aussi une parcelle en maraîchage bio, puisque mon conjoint est maraîcher bio. Et du coup, on propose aussi à nos clients de se fournir avec les légumes du jardin et les fruits maintenant, parce qu'il y a aussi un verger avec des arbres fruitiers. On a été amené à construire sur le domaine des nouveaux hébergements, donc avec le principe de l'éco-construction et de l'auto-construction également. Puis on a créé aussi un bloc sanitaire écologique avec une phytoépuration et un toilette sèche. Donc ça, dans des hébergements comme ça, c'est finalement assez original, puisque on reçoit quand même des groupes qui peuvent venir de la ville et qui n'ont pas forcément cette notion de recyclage au niveau des toilettes et de l'utilisation de produits écologiques pour pas que l'eau du bassin qui repart à la terre soit polluée. La deuxième chose qu'on a développée, c'est des jeux. L'idée étant que les gens ne réutilisent pas leur voiture une fois qu'ils sont sur place, parce que sinon c'est tout de suite 10, 20, 30 voitures qui repartent sur les routes de la Drôme. Donc en fait, on a imaginé un jeu de piste nature qui permet aux gens de façon ludique de découvrir la faune qu'il y a sur le domaine, de l'identifier et aller jusqu'à trouver ce qu'on appelle la reine des aïas, qui est donc un animal, mais je ne vous dirai pas lequel. Et à l'issue de la fin de ce jeu, les personnes sont, on leur propose de créer quelque chose. Ça peut être une chanson, une danse, un poème, une ode à cet animal.
Est-ce que vous diriez du coup que par ces activités proposées, vous permettez aux gens qui viennent dans votre gîte de s'emparer de cette question de transition, d'écologie et du coup de peut-être s'engager eux-mêmes ?
Je ne sais pas si nous permettons qu'ils s'engagent. Ce que je pense, c'est qu'on attise une curiosité et on montre par tous ces aspects qui sont assez finalement récréatifs, que un tourisme finalement tranquille peut se faire sur un lieu, ce qui est proposé sur le domaine. Alors, bien sûr, il y a la pétanque hein, et il y a la piscine depuis un an. Et cette piscine qu'on ne souhaitait pas au départ, elle nous a été en quelque sorte imposée par le besoin d'avoir une réserve de 120 mètres cubes sur notre domaine pour les pompiers. Et donc on s'est dit que c'était aussi une bonne chose plutôt que les personnes repartent dans les rivières. On sait bien qu'en période de canicule, les rivières sont à des niveaux d'eau très faibles, donc avec des gros risques de pollution. Tout ça fait que tout se passe dans une ambiance festive, conviviale. Et je ne sais pas si ça les engage à quelque chose, mais je pense simplement que, et moi c'est ma seule ambition, petite ambition, de proposer ça et d'ouvrir des curiosités, des questions ou des questionnements que les gens peuvent avoir. On a aussi mis en place des éco-gestes. Donc c'est des petits panonceaux dans tous nos hébergements, humoristiques, pour avoir des petites alertes sur la lumière, l'eau, le tri, justement le sanitaire écologique. Voilà. Mais tout ça dans une ambiance où il faut que ça reste léger et que ça soit jamais une contrainte ou culpabilisant pour les gens qui viennent chez nous. Parce que je crois que nous, on le vit de manière positive, quoi. Donc, naturellement, on va transmettre quelque chose de joyeux, quoi.
Je m'appelle Alexandre, j'ai lancé Chemin, qui est une agence de voyage à vélo électrique, donc des voyages itinérants sur la Drôme, sur l'Ardèche, sur le Vaucluse, mais aussi dans les Alpilles, en Camargue. Et on a l'agence qui est à Die, donc on propose aussi de nombreux voyages en Biovallée, mais aussi des séminaires, des learning expéditions pour des organisations, des assos, des entreprises, des collectivités. On l'a lancé dans Drôme Provençal au départ et on est venu installer l'agence et s'installer à Die il y a 2 ans maintenant. On part toujours d'une gare par ailleurs, donc nos voyageurs ils sont essentiellement urbains. Ils vont habiter Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier. Donc ils arrivent en train et nous on les accueille en gare. Donc ils partent directement à vélo sur le territoire. Et l'autre partie qui pour nous est hyper intéressante, c'est de les amener à rencontrer des acteurs du territoire de la transition. Donc ça va être un apiculteur, une lavandicultrice en bio, ça va être un vigneron en nature, etc., etc., etc. Mais ça peut être aussi pour des organisations, ça peut être GPA à Livron, qui est dans l'économie circulaire, ou ça peut être sur les énergies renouvelables, avec 10 watts, par exemple, ou avec 8 Fab Labs, il y a aussi de l'économie circulaire. Donc on a la chance d'avoir tellement de projets sur la transition en Biovallée, que de structures, d'acteurs, qu'on en profite. On a un public qui n'est pas très averti, et c'est bien aussi, c'est ce qui nous anime. Ils ne viennent pas vers nous, souvent, pour l'aspect éco. Ils viennent vers nous pour une expérience d'être tous ensemble en pleine nature, parce que ça, la pleine nature, quand tu habites Paris ou Lyon, t'en as vraiment besoin. Que tu sois averti ou pas sur l'écologie, la transition, tu ressens, c'est un ressenti fort. Donc ils viennent vers nous pour ça, pour ralentir. Et par contre, quand ils vont rencontrer l'apiculteur ou d'autres personnes comme ça, là, ils apprennent plein de choses, ils se rendent compte de plein de choses. Et souvent, la transmission, elle se fait avant tout par les enfants, d'ailleurs, plus que par les parents. Et puis les enfants, ils n'ont pas de filtre économique, c'est pas eux qui achètent, c'est les parents. Donc ils n'ont pas ces filtres-là, mais par contre, ils ressentent vraiment ce besoin de faire autrement. Donc les parents, dans ces cas-là, c'est une remise en question de consommation pour la famille. C'est vachement... Enfin, nous, on trouve ça cool. Ça fait 25 ans que je travaille dans le tourisme et j'adore ça. J'ai monté des agences de voyage long courrier immersives en Asie. J'étais sur le long courrier. Et en 2015, quand je suis devenu papa, je comprends enfin la responsabilité que j'ai au niveau du réchauffement climatique en particulier. C'est 2,5 tonnes pour aller à Bali ou pour aller à New Delhi ou pour aller au Sri Lanka ou au Japon. Et c'est là où il m'a fallu un peu de temps pour sortir de mon activité, pour réfléchir à une alternative qui soit séduisante et crédible pour une clientèle urbaine qui a l'habitude de prendre l'avion et de dire on va proposer autre chose, bas carbone, mais on va pas trop parler du bas carbone, c'est pas ça qui va les faire venir. C'est la cerise sur le gâteau, mais d'où cette idée de chemin. Donc moi, le tourisme, je suis né quasiment dedans et voilà, je trouve ça génial parce que c'est des moments privilégiés où ils sont plus dans leur quotidien, donc les gens sont quand même assez ouverts sur autre chose, la curiosité est là. Ils sont plus dans un moment d'ouverture que dans leur quotidien, in fine. Donc c'est le bon moment pour poser des petites graines. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'ils reviennent, les voyageurs, et qu'ils ramènent leurs familles, leurs amis. Donc il y a un bouche à oreille qui fonctionne bien. Et on a fait un sondage, alors pas auprès de tout le monde, mais on a fait un sondage empirique, parce que la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils remplacent leur voyage en avion à Marrakech ou à Istanbul, ou alors c'est en plus? Si c'est en plus, c'est un peu con quand même. Et non, ils n'ont pas 15 000 semaines de vacances. Donc quand ils viennent en Drôme ou en Ardèche ou dans le Vaucluse, par exemple, à vélo, c'est ce qu'ils ne vont pas dépenser, entre guillemets, sur un vol moyen courrier ou long courrier. Nous, habitants ici, on ne se rend pas compte. Mais depuis quelques mois, en particulier avec tout ce qui se passe, la nouvelle les élections américaines, etc., l'écologie, il y a beaucoup de gens... Le terme écologie, ça les gonfle. Ce ne sont que des règles, en fait, des machins, il ne faut pas faire, etc. Et en fait, je pense que c'est vachement important de passer un message toujours dans la joie. Et en fait, de voir des gens, des porteurs de projets qui sont joyeux, qui sont heureux de vivre, qui sont heureux de faire leurs produits et de partager leur passion, c'est ça qui est génial.
Voyageant et voyager pour apprendre. Vous écoutez Il est une vallée sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Les alvéoles en 2012 pour accompagner des porteurs de projets qui ont envie de réaménager leurs espaces extérieurs ou même des fois intérieurs autour des principes de la permaculture. C'est une histoire qui a commencé à Grenoble en fait, mais petit à petit cette histoire m'a amené ici là, dans le Val de Drôme où on a implanté notre pépinière, nos jardins expérimentaux. Vraiment histoire de prendre racine et puis d'expérimenter un peu tout ça, de nourrir notre expérience, de planter à la place des gens qu'on accompagne, de planter des plantes qui vont nous permettre de venir planter avec eux, de multiplier tout ça, parce qu'on a créé une pépinière avec mon collègue François là il y a quelques années aussi. Donc voilà, j'ai créé les alvéoles comme un espace et un organisme un peu pluricellulaire. Il y a de l'étude, du conseil, de la formation, de la pépinière, et puis aujourd'hui de l'accueil aussi.
Antoine Talin.
Comment me présenter ? Je dirais que je suis une voyageuse autodidacte et débrouillarde. Et j'ai rencontré le monde de la permaculture en Colombie. Ça a été vraiment une révélation. Ça m'a donné beaucoup d'espoir sur l'avenir. Et depuis ce temps-là, je me suis dit que je voulais trouver ma place dans ce monde de la permaculture. Et je suis plutôt issue du socioculturel et de la coordination de projets. Et je suis très intéressée aussi par l'éducation et les différentes pédagogies. J'ai fait de la formation BAFA, par exemple, etc. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé pour Permalab. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine et tout le réseau de la vallée de la Drôme. Et j'avais comme idée de créer une auberge, justement une auberge culturelle et apprenante, parce que je venais pas trop du tourisme, plutôt de l'éducation, donc je voulais qu'il y ait une dimension éducative. Et j'étais même allée voir Antoine pour lui demander s'il voulait être partenaire sur mon projet. Et puis finalement, ce projet, je l'ai laissé de côté. Et un jour, Antoine m'appelle pour me dire, bah, écoute Caro, en fait, on est en train de créer une auberge apprenante, une auberge école aussi. Est-ce que ça te dit de t'investir dans ce projet ? Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le projet de la ruche.
Caroline, Julien.
On ne travaille pas directement avec les touristes, j'ai envie de dire, mais en tout cas, on essaye d'accueillir sur ce territoire des gens qui ont envie de s'inspirer, de se ressourcer et d'apprendre un peu de ce qui se passe par ici, des initiatives qu'on peut nous mener aux alvéoles, mais aussi que les copains peuvent mener autour, un peu toutes ces initiatives du territoire. Donc c'est vrai que de par l'activité des alvéoles, il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout, qui viennent de toute la France, de Suisse, de Belgique, des fois de Tunisie, on a une Vietnamienne, donc il y a des gens qui viennent un peu partout. Est-ce que c'est du tourisme ? Peut-être d'une certaine manière, en tout cas, ils viennent se décaler un peu de leur quotidien, se ressourcer et apprendre, que ce soit dans nos formations ou dans des ateliers, des stages, des chantiers participatifs. C'est vrai que depuis des années, il y a beaucoup de gens qui découvrent le territoire à travers ce qu'on fait. Et c'est ce qui nous a donné aussi envie de développer ça et de tisser d'autres liens avec le territoire, histoire que ce ne soit pas seulement les jardins agroforestiers ou la pépinière qui servent de support, mais plutôt l'ensemble du territoire. Voilà, vu qu'on est d'une certaine manière une porte d'entrée sur ce territoire. Et puis depuis pas longtemps, on se dit qu'on peut peut-être aussi intégrer les touristes du territoire pour leur ouvrir les portes aussi et leur proposer une autre manière de faire du tourisme et leur proposer aussi de découvrir ce qu'on fait. Donc ça, c'est un peu nouveau, voilà, mais ça peut être un peu dans les deux sens. Il y a cette idée d'ouvrir un petit peu plus large, de tisser des liens avec des publics avec lesquels on n'était pas forcément en contact jusqu'ici.
En quoi est-ce que c'est intéressant aussi, comme style d'apprentissage, de faire différemment, de faire en groupe ?
Il y a déjà l'effet groupe, comme on dit, où les personnes, juste le fait de se retrouver avec chacun son univers, apprennent de l'univers de l'autre. Et ça, je pense que dans plein de formations d'ailleurs et dans plein de voyages en général, c'est la première source d'apprentissage. On a besoin de l'autre pour apprendre sur soi.
On vient de terminer un atelier avec du coup des stagiaires qui viennent apprendre comment accompagner des porteurs de projets. Donc c'est des stagiaires en conseil de design en permaculture. À peine l'énoncé et la problématique expliquée, ils avaient déjà des idées, des projections, leurs idées. Et moi, je fonctionne comme ça aussi souvent. J'ai tout de suite des idées qui me viennent. Mais finalement, le fait de les déconstruire pour les reconstruire avec d'autres et le fait de décaler le regard, ça, c'est quelque chose qui est souvent très riche et qui amène à des solutions qui n'auraient pas émergé sinon, en fait.
Qu'est-ce que ça crée de fort d'être sur un territoire comme celui-ci pour une structure comme les alvéoles ?
Pour nous, c'est soutenant déjà d'être sur un territoire où il se passe plein d'initiatives. Il y a vraiment une dynamique, je veux dire, d'entraide, de soutien. On travaille en partenariat avec l'association Biovallée, mais aussi avec les Amanins qu'on accompagne, qui nous soutiennent, qui viennent chez nous aussi. On va travailler aussi en lien avec l'usine vivante, avec tout un tas d'acteurs du territoire. Ça nous permet aussi, nous, de faire des visites. Là, aujourd'hui, on est dans le centre de l'Aube, qui est encore un autre lieu qui est en train de se développer pour d'autres publics, qui a vocation à accueillir des publics fragiles. Et là, il y a d'autres rencontres entre nos stagiaires, ces publics-là, ce lieu qui se pose des questions. Il y a une pollinisation croisée qui se crée. Il y a des copains maraîchers qu'on va visiter régulièrement, on peut aller visiter d'autres tiers-lieux. Bref, on s'appuie sur ce territoire aussi, en tout cas on essaye de le laisser s'exprimer ou de raconter notre histoire à travers ce territoire et le territoire à travers notre histoire. Donc ça c'est hyper précieux pour nous parce qu'on n'est pas obligé de rester enfermé dans notre propre exemple. Et même si on essaye d'incarner un peu notre récit, un récit un peu alternatif. Et ben en fait, ça fait écho. En fait, le territoire permet d'illustrer vis-à-vis des stagiaires et des apprenants et des visiteurs que oui, ce qu'on raconte, ça peut s'incarner, ça peut exister. Et ça, dans une dimension pédagogique, c'est hyper précieux d'avoir cette validation et puis d'avoir d'autres voix aussi que la sienne. Moi, je peux raconter mon histoire, je peux raconter ce qu'on fait, mais quand c'est d'autres gens qui racontent à leur manière aussi, ça vient ancrer, ça vient consolider, on sait que c'est possible. Et un territoire comme celui-là, ça permet aussi de faire appel à plein d'intervenants différents. Il y a vraiment une envie et une intention d'avoir quelque chose de plus fertile et d'enrichir aussi nos pratiques. C'est des pratiques qui sont émergentes, on est loin de tout connaître. On découvre des choses tous les jours, en fait, hein, autour du vivant. Et voilà, donc ça, c'est vachement important. On va être amené à travailler un peu tout au fil de la Drôme, parce qu'on a des sites qui nous accueillent, des sites écoles ou des sites un peu de référence à Livron. Et puis, on va avoir des sites comme l'École de la Nature et des Savoirs, la ferme de Mont-Lahuc avec nos copains là-haut qui vont nous accueillir. On peut mettre en lumière aussi tout le travail que fait Marco et son équipe. Bref, il y a des résonances comme ça et c'est... voilà, c'est vraiment précieux pour nous de pouvoir parler d'un territoire, parce que voilà, on parle d'écosystème et au-delà du jardin, le jardin s'inscrit quelque part. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vraiment précieux. J'ai pas fait exprès de m'installer dans ce territoire, c'est vraiment le territoire qui m'accueille. J'ai pas cherché un territoire comme ci ou comme ça. À l'origine, je cherchais dans une toute autre région. Et puis finalement, voilà, c'est peut-être le terrain qui nous a choisi, appelé. En tout cas, il y a eu cette occasion qui s'est dessinée. Et aujourd'hui, je suis bien content de pas être pionnier et de pouvoir passer de l'énergie à avancer plutôt qu'à essayer de convaincre plein de gens.
Tout à l'heure, tu disais de peut-être justement intégrer le côté tourisme qui vient en Drôme. Qu'est-ce que vous imaginez comme évolution pour venir toucher cette partie-là ?
On est en train d'imaginer des séjours apprenants. Donc une forme qui serait hybride entre la formation et le séjour de visite, de voyage. Là, on se concentre vraiment dans l'ouverture de l'auberge pour que ce soit un lieu qui permette d'accueillir la diversité des gens qui passent par chez nous, que ce soit un lieu de rencontre. Donc, on se concentre sur la base. Mais voilà, on est en train de travailler en parallèle à ces propositions.
Parce que si on est dans une vallée rurale qui accueille beaucoup de personnes d'origines différentes, pas que françaises, voilà. Et donc du coup, toute cette richesse culturelle, cette richesse intellectuelle aussi, et cette richesse de savoir, de compétences, et avec aussi un partage d'une certaine vision du monde qui peut plaire à plein de personnes, mais en effet, créer plus de liens entre ce qui existe déjà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à développer, notamment pour les personnes qui viennent découvrir ce territoire, pour leur montrer aussi un autre aspect de ce territoire qui n'est pas forcément dans la consommation, mais aussi dans les possibles, le champ des possibles. Voir ces personnes-là, quand elles reviennent sur leur propre territoire, l'idée c'est qu'elles puissent être inspirées et qu'elles le fassent après à leur manière sur leur propre territoire. Les habitants d'ici font avec ce qu'ils ont, mais en aucun cas ils détiennent la vérité ou une méthodologie applicable partout. Ça reste organique. Après, c'est à chaque visiteur de s'inspirer et de faire sa tambouille quand il revient là où il est. Mais c'est ça, je pense, qui est bon dans le voyage avec l'intention d'y apprendre.
La ruche, c'est pour nous un endroit de rencontre entre les gens qui viennent nous voir et le territoire, entre des touristes et ce qu'on fait ou les gens qui viennent nous voir. Donc voilà, pour nous, c'est aussi un endroit d'ouverture, de rencontre pour favoriser ces liens-là. Au-delà du fait aussi d'avoir des hébergements accessibles et pas chers, qu'on trouve difficilement. Nous, une de nos limites dans l'accueil de stagiaires, c'est qu'en fait, on est en limite, il n'y a pas beaucoup d'hébergements et encore moins des hébergements accessibles et pas chers. Donc le principe de l'auberge de jeunesse, ça, il n'y a pas, à mes connaissances, dans le coin. En tout cas, dans le Val-de-Drôme, j'en connais pas. Dans le Diwa, peut-être qu'il y en a, mais je ne le connais pas bien. Et donc, on vient, pour nous, déjà répondre avant tout à un besoin qu'on a, d'offrir la possibilité à des gens de participer à ce qu'on fait facilement. Et puis, un besoin du territoire aussi. Je pense qu'on a envie de sortir de la logique des Airbnb ou des logements chers, des choses comme ça. Donc, c'est aussi notre intention. C'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec Caro. C'est de pouvoir accueillir un public avec plus de diversité. Ça peut aussi encourager encourager une autre forme de tourisme. Il y a des gens qui ne viennent pas dans la région parce qu'en fait, c'est difficile d'avoir des hébergements pas chers en dehors des campings l'été. Et donc voilà, je pense que ça contribue aussi à l'ouverture culturelle et à une autre forme de tourisme pour la région.
Après, moi, ce qui me plaît à l'auberge, c'est d'avoir justement pignon sur rue et de pouvoir faire se rencontrer aussi les locaux et les passagers. Et je pense que ce qui permet de se sentir en sécurité, c'est se sentir relié avec d'autres qui partagent aussi des valeurs communes. Et ça ne veut pas dire qu'on est pareil, ça ne veut pas dire qu'on vient du même endroit ou du même milieu, mais on a quand même des valeurs et une vision commune de ce qui nous fait vibrer dans la vie et ce qui nous fait du bien. On sache qu'on est ensemble, en fait, et qu'on sente un soutien quand on se lance dans une aventure, dans un projet, dans un rêve.
Et du coup, c'est l'auberge qui relie, pour faire écho à ce que dit Caro. Donc ça, c'est le titre. Et j'aimerais faire une invitation. On a envie d'ouvrir régulièrement à des petites soirées, des événements, pour pouvoir justement se rencontrer et échanger. Et là, on va faire une proposition autour du mardi fertile. Donc ça va être les mardis soirs. Certains mardis soirs, il faudra suivre l'actualité sur notre site. Il y a des mardis soirs où on va proposer une projection en direct de webinaires qu'on organise. Parce qu'en fait, on travaille de plus en plus sur des formats numériques de formation. Ça, c'est l'autre aspect de notre activité. Mais comme on n'a pas envie de perdre racine, on a envie aussi d'inviter les gens à venir ensemble. Donc les mardis fertiles, c'est des webinaires en direct avec des experts qui font des cours sur la mare, le sol, la biodiversité, des cours pratiques pour accompagner les jardiniers ou les gens à mettre ça en place chez eux. Donc ça a lieu en ligne, il y a des gens qui le suivent dans toute la France, mais nous on est un petit peu frustrés de ne pas avoir des gens qui sont là en direct. Donc on va en faire une occasion de faire des apéros le mardi, des afterworks, donc c'est voilà, de 18 à 21 heures, où on va pouvoir regarder ensemble ces webinaires et puis avoir un temps d'échange et de discussion convivial autour d'un verre, tout ça. Donc voilà, les mardis fertiles, allez voir sur notre site, vous trouverez toutes les infos.
Merci.
L'association BioVallée sur le sujet du tourisme apprenant.
Pour donner un exemple, elle développe une activité qu'on nomme les visites apprenantes.
Julie Delclos.
C'est vraiment cette idée d'hybrider entre le savoir et le tourisme, d'accueillir des professionnels ou des étudiants pour pouvoir les accompagner dans leur propre contexte, mais pouvoir surtout leur faire découvrir les coulisses de la transition écologique et sociale à travers l'exemple du territoire BioVallée, de voir à quel point ça peut les nourrir, à quel point ça peut les inspirer pour pouvoir leur donner des capacités d'agir dans leur propre métier, structure ou territoire ensuite. À travers les visites apprenantes, l'association BioVallée, elle permet finalement à ces gens qui viennent apprendre et découvrir un territoire, donc cette visée touristique-là, d'apporter un regard y compris théorique, mais pas que, en fait. Il y a ce côté valeur de l'exemple dont on a parlé, c'est-à-dire que la théorie c'est intéressant, mais quand on comprend appliquer un exemple, ici le territoire BioVallée, ces différents acteurs qui témoignent, ça permet d'être beaucoup plus outillé. Mais il y a aussi ce volet de pouvoir permettre d'apprendre tout en étant sur quelque chose de sensoriel, émotionnel. Et ça, ça marche toujours mieux. Enfin, typiquement, si je vous dis attention, les orties, ça pique, vous allez m'écouter et m'entendre. Mais en fait, le jour où vous faites piquer et vous le ressentez, ben là, vous l'avez beaucoup plus appris qu'avec la théorie. Il y a une troisième dimension aussi importante, c'est ce côté collectif, c'est-à-dire qu'à l'association BioVallée, on reçoit en visite apprenante des groupes. On accueille des groupes de professionnels ou des groupes d'étudiants. Cette dimension collective pour l'apprentissage, elle est assez intéressante parce que ça permet aux apprenants de vivre aussi des moments de vie, de complicité. Le groupe se constitue, il vit une histoire en fait. Et ça, c'est aussi propice à mieux retenir, d'aller sur un apprentissage ancré sur un territoire et donc d'aller plus loin.
Pour nous, ces visites apprenantes, c'est vraiment une forme de tourisme durable apprenant.
Andrea Mayotte.
Ça s'adresse à des professionnels, comme Julie l'évoquait. Ils sont en immersion sur le territoire et ils sont en lien effectivement étroit avec les acteurs locaux. Et c'est les liens avec les acteurs qui sont engagés sur le territoire, sur les thématiques qui leur intéressent d'analyser plus en profondeur. Mais c'est aussi en lien avec des acteurs du territoire qui vont être des hébergeurs chez qui ils vont séjourner, qui vont être les restaurateurs, qui vont être des acteurs qui vont aussi pouvoir leur transmettre quelque chose d'un point de vue plus sensible aussi. Donc c'est vraiment une expérience, en tout cas telle que le porte l'association Biovallée, hein, les visites apprenantes, c'est vraiment une expérience qui est complète, qui se veut cohérente et qui permet, on est persuadé, que c'est vraiment ça qui facilite, du coup, comme l'évoquait également Julie, l'apprentissage, l'ancrage et puis l'envie de pouvoir essaimer et en tout cas de développer des choses qu'ils ont vues ici dans leur contexte territorial.
Est-ce que vous voyez d'autres biais pour l'évolution de l'organisation BioValide sur les visites apprenantes ?
Oui, on réfléchit à cette logique de réciprocité, c'est-à-dire de dire que eux aussi, les apprenants, ont des choses à apprendre aux gens et aux individus en local, et que les gens qui interviennent dans les visites apprenantes, les acteurs du territoire BioValide, puissent aussi en tirer des enseignements sur leurs propres pratiques, leur propre façon de faire. Donc on ne sait pas encore comment ça se traduira. Est-ce qu'on aura la chance à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France plutôt, est-ce qu'on aura la chance d'aller voir chez eux comment ça se passe et de se questionner aussi, ou de se dire que les gens qui peuvent intervenir dans ces visites-là puissent avoir un temps d'échange avec les gens qui viennent apprendre, qui ne sont pas que des gens qui viennent apprendre, parce que ça peut être aussi des gens qui viennent faire apprendre à d'autres par rapport à leur propre contexte. Donc ça, c'est des choses qu'on réfléchit, donc à voir comment on pourra le mettre en place.
Thank you.